On rassemble de drôles de mots depuis nos cachettes secrètes. Des balades et un micro pour capturer des cacahuètes. Quelques sons et des échos, des vieilles histoires bien trop muettes. On cuisine une soupe de mots, prends une cuillère et tiens-toi prête. L'heure est venue de la récolte pour que mémoire ne soit muette. Quelques souvenirs de révolte, de manifs et de fêtes. Dans un monde un peu trop barge, trop d'humains ont la grosse tête. N'oublie pas l'histoire des marges qui se battent dans la tempête. Celle qui défie le réel, qui lui donne un goût de miel. Rature les schémas de la norme et se laisse pousser des petites cornes. C'est la voix de militants que tu vas entendre. Dans un instant, ils ont débarqué dans le budget. Camp nucléaire, des tech projets, de belles vies pour voir grandir. Un bricolage de pâte à fixe, centrale vide et sans avenir. La prétentieuse super phénix, habitant à 4000 mètres, le montre lui sous les fenêtres. Il s'oppose, envoie des lettres, s'organise, idiot ni maître. Sa place se tend pâle, y'a de la casse, son sein s'installe, il tabasse, on se cale, il nous nasse tous, râle, mais ça se passe cavale, il nous chasse des voiles, une farce bancale, pleine de crasse cavale, et l'audace du scandale.
C'est l'histoire d'un micro qui se balade dans les collines du Bugey et qui rencontre des spécialités locales. De grands voyous, au teint blafard, repérables à des kilomètres à la ronde, qui font des magouilles depuis plus de 50 ans. Ensemble, ils forment une sorte de mafia foireuse. Insérés dans des affaires de troc, de matières venues de loin, ils prétendent avoir de l'énergie à revendre et provoquent des réactions en chaîne. Le premier, d'une élégance en béton, est le plus imposant. Un mastodonte robuste qui respire par quatre énormes narines avec un souffle lapidaire qui s'élève jusqu'aux nuages. Le bonhomme est bien décrépit. Il accuse plus de 50 années de service. Son teint gris anthracite trahit la crasse des années. Mais pour l'instant, il refuse de s'arrêter. Le deuxième brigand a une histoire un peu plus obscure. C'est un type qui fut considéré à sa naissance comme le fleuron de l'industrie nucléaire de notre chère France. Mais ses plans foireux ont vrillé dès le départ. Et après avoir fait un boucan infernal, s'être cassé la figure un paquet de fois, avoir détruit des vies et des sols pour un temps indéfini, le brigand s'est planqué sous une coupole, essayant de se faire oublier. Il ne reste que sa carcasse, radioactive, bétonnée, et immergée dans une piscine froide.
Dans l'épisode précédent, on entendait les mots d'Yves François, un agriculteur céréalier qui était môme quand les travaux de construction de Super Phénix ont démarré, juste sous ses fenêtres. Il raconte la rencontre entre le monde militant et sa famille, d'origine noble et bourgeoise. Il parle des violences policières, raconte la mort de Vital Michalon, s'enthousiasme pour le mouvement antinucléaire naissant et les grandes manifestations de la fin des années 70. Ce second épisode aurait pu être une suite de cette histoire, relativement factuelle, sur la lutte contre Super Phénix. La parole aurait été exclusivement donnée à Georges David, militant antinucléaire qui habite juste à côté de Super Phénix et qui en connaît un sacré rayon. Mais parce que son discours se rapproche beaucoup de celui d'Yves François, et que c'est chouette d'entendre des voix moins écoutées, la parole sera également donnée à sa compagne, Danielle David. Ce n'est pas ce qu'avaient prévu les enregistreuses à ce moment-là, mais le micro, curieux et autonome, s'est instinctivement tourné vers la personne qui lui servait discrètement du café et lui ramenait du sucre. Voici donc un méli-mélo de ce qu'il a choisi de capturer sur sa carte mémoire. D'abord, des mots de Georges pour rapidement resituer le contexte historique, puis ceux de Danielle, une militante, mère, féministe, en somme bien plus qu'une épouse de militant.
Quand on est arrivé ici, j'ai commencé par rénover cette maison. Donc j'étais très pris par le...
C'était la maison de mes parents.
Voilà, donc je rénovais et puis un jour on a appris qu'il y avait une réunion d'information sur Malville et on y est allé. Donc c'était chez Maurice François Et ça a été pour moi le point de départ de mon implication dans l'opposition à Super Phénix. Et là, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça a été le point de départ. Et souvent, il y a eu beaucoup de réunions ici, parce qu'on n'avait pas de lieu solide. C'était un peu au hasard Balthazar. Donc, en gros, c'était souvent ici, parce que c'était un peu l'endroit où se décidaient un certain nombre de choses. Ici en 74, quand ils ont commencé à faire les terrassements. Ils ont fait les piquetages, le repérage de la zone. D'ailleurs, la première action, ça a été une action au niveau des piquetages, puisqu'on avait, on avait enlevé les piquetages pour embêter
les marquages au sol.
Les marquages au sol. Mmh. Et ça date de 74. Au moment de la manif de Buget, j'étais parti en vacances avec un numéro de La Gueule Ouverte où on voyait un dessin de Reiser avec un bonhomme qui partait, qui avait dans son sac une baguette de pain et puis une touffe de poireaux, plusieurs poireaux qui étaient dans son sac. Puis je ne me souviens plus de la légende, mais il faisait allusion justement aux luttes antinucléaires qui commençaient à démarrer.
Bon, puis le gros scandale de l'époque, c'est que les militants s'étaient baignés nus dans la rivière, et ça, c'est resté...
Non, mais ne mélange pas...
Si, ça a été après. Au niveau de Buget.
Ah, non, c'était les seins nus,
oui, ça avait frappé les esprits, c'était le début, là.
Ça avait frappé les esprits. Oui, donc c'est vrai qu'à l'époque, oui,
je m'en souviens, alors quand j'étais pas militante, je savais pas ce qui nous attendait, je comprenais pas ce qui se passait là-bas. Parce qu'avec mon père, on voyait un gros machin qui montait dans le ciel, ce parallépipède, parce que Buget 1, c'était une graphite gaz, c'était pas du tout le même système que les autres. Et personne savait ce qu'il y avait là, on voyait ces trucs. Mais c'était marrant, il y avait une passivité devant ce qui se faisait, bon, on sait pas.
Le Monde, 19 juillet 1976. Grenoble. Le site de Malville dans l'Isère, où doit être construit le surgénérateur Super Phénix, est certainement l'un des endroits les mieux gardés de la région Rhône-Alpes. Impossible d'approcher à moins d'un kilomètre. CRS et gendarmes interdisent l'accès des routes, qui y conduisent à tout véhicule et à toute personne étrangère à la région. Il protège un champ de 150 hectares, entouré d'une clôture électrifiée, derrière laquelle a été installé des fils de fer barbelés.
« Ce terrain appartient à l'EDF »,
déclare le préfet de l'Isère, M. René Janin.
« J'ai pour mission de faire respecter la propriété privée et publique. Plus jamais les militants antinucléaires ne franchiront les grilles de la future centrale. »
Le préfet a pris cette affaire personnellement en main. Il précise à propos des graves incidents qui se sont produits le 10 juillet.
« On prévient, puis on nettoie. » Il y a eu 13 blessés parmi les forces de l'ordre. Les militants antinucléaires ne sont donc pas des non-violents.
Le préfet de l'Isère entend d'autre part faire procéder à des contrôles d'identité sur les routes de la région, estimant
anormal
la présence de Suisses, d'Allemands et d'Italiens lors des précédentes manifestations.
Il y a,
précise M. René Janin,
une certaine limite à l'hospitalité.
Depuis une semaine, le mouvement de protestation contre l'installation de Super Phénix à Crémalville s'est profondément modifié. Fini l'inorganisation des premiers jours. La première fête avait eu lieu le 4 juillet, qui découragea nombre de militants. Tout d'abord dispersés dans une dizaine de
campings sauvages,
puis délogés à coups de matraque du camp de Mépieux, les écologistes ont progressivement
investi
les villages de la région. Une centaine d'entre eux logent aujourd'hui dans les fermes et participent aux travaux des champs. D'autres ont trouvé un emploi dans des ateliers. Enfin, les nouveaux venus se sont installés sur des champs prêtés à proximité des villages.
À l'intérieur, une espèce de poche où il y avait des militants qui étaient là en permanence. qui avait qu'en face les CRS, hein, qui faisaient un rang. Et à l'extérieur, il y a tout un champ qui avait été prêté par des agriculteurs sur lequel se sont installés les manifestants. On avait acheté un vieux car. Un vieux car qui était au bout du rouleau, qui avait été acheté à Annecy. Il a été acheté à Annecy, il a été mis sur le terrain et qui nous a servi de PC. Pendant 15 jours, les membres du bureau s'étaient installés dans ce car et faisaient les communiqués de presse, tout le bazar. Ce car, quand il y a eu l'intervention de la police, il a été embarqué à Grenoble et probablement vendu au domaine. Bon, il ne valait plus rien, hein, le moteur, il était tout juste bon à faire 100 km, c'est-à-dire Annecy jusqu'à Madrid, et après il était bon à la casse. Hein. Le camping en question, en 76, c'était une zone céréalière. Donc le blé venait d'être coupé.
Il y avait la canicule.
Il restait de la paille. Et à l'époque, 76, il faut savoir qu'en 76, il y a eu une canicule aussi importante, un peu moins importante, mais quand même très importante pour l'époque.
C'était très sec.
Très, très sec. Et les CRS, en lançant des grenades fumigènes sur les manifestants qui étaient en face, ont mis le feu au terrain.
Au paille.
À la paille. Et les manifestants qui s'y ont mis tous, et puis on a réussi à éteindre l'incendie. Et alors, il y a une anecdote qui est assez intéressante, c'est que dans la mesure où on avait quand même brûlé une partie des récoltes, je ne me souviens plus exactement des détails, il y avait notamment de la paille, ou je ne sais pas, qui n'avait pas été récoltée, je ne sais plus. Et pour ne pas entretenir le discours qui aurait été développé du côté pro-nucléaire, le discours, oui, ils nous ont brûlé des récoltes, etc. Les paysans du Larzac ont proposé d'envoyer tout un char de bottes de foin. Et il y a un char du Larzac qui est venu apporter un char de bottes de foin au profit de la personne qui a vu une partie de sa récolte brûler. C'était symbolique, mais ça a été
important, je pense.
Ça a été important.
Moi, j'y allais moins que lui, hein, parce qu'il y avait quand même un gérant ici. Et puis, je ne sais plus, on avait peut-être du monde, je ne sais plus à l'époque.
Oui, puis il y a des gens qui venaient dormir ici.
Oui, c'était compliqué. On avait sûrement du monde ou des copains, je ne sais pas. Mmh. Alors, ça devient. C'est un peu loin. Il y avait toujours des gens qui déboulaient ici, qui déboulaient à midi pour manger aussi, qu'on n'avait pas vu avant. Donc, c'était pas évident, j'avoue que je n'ai pas trop aimé. C'était
compliqué.
Les militants, c'est des mentalités parfois assez particulières. Puis des gens qui arrivaient, qui étaient dans les têtes pensantes, qui arrivaient à midi moins quart, 11h30. Fatalement, ils mangeaient, mais on ne savait pas qu'ils allaient être là. Et puis, c'est vrai, ça. Mmh. Hein. Et moi, j'avoue que j'ai trouvé ça pas respectueux des gens. Je ne l'aurais pas fait à d'autres. Donc,
ça restait marginal quand même. Hein.
Oh, c'était assez systématique.
J'ai
vécu difficilement.
T'en avais à l'inverse qui arrivait ici. Je pense à Jean-Michel Asselin quand il était parti dans le pré, il a fait ramasser une salade. En fait, il nous avait fait une salade superbe.
Oui, il y avait des
côtés bien. Avec juste des herbes qu'il avait ramassées. Il connaissait très bien en plantes. Il nous avait ramené toute une série d'herbes. On avait fait une super salade. Rien qu'avec des herbes ramassées dans le pré.
Et il ne voyait pas les choses de la même façon. Il était dans la décision, dans la stratégie, dans la planification. Moi, pas. Donc, moi, j'étais dans le quotidien, plus. Donc, c'était deux mondes complémentaires et différents, on va dire. Et donc... C'était pas évident. Et puis il y a aussi des choses. La coupure avec les voisins aussi, les populations, c'était pas évident non plus, parce que ça a été une marginalisation. Hein. C'est sûr, le fait de s'engager et puis d'être avec plein de gens, donc ils le vivaient curieusement aussi. Bon, il y avait un côté très sympa, il y avait des gens très très bien, et puis il y avait d'autres plus opportunistes, on va dire. C'était comme la société, hein. Voilà. Mais, comment dire, à vivre au jour le jour sur des jours et des jours, c'est pas forcément évident. Mais bon, je pense que quand on est dans la décision, on voit plus le côté exaltant, le côté motivant. Donc on voit pas les autres aspects, on les voit beaucoup moins. Donc on vivait pas la même chose tous les deux. C'était plus les femmes quand même qui faisaient la bouffe. Il y avait des hommes aussi quand même, si. Mais c'était plus les hommes qui planifiaient, qui organisaient. Bon, avec quelques exceptions. Mais sinon, il y en avait pas tant que ça.
Oui, c'est vrai.
Pas tant que ça.
Surtout masculin.
Voilà.
Le monde militant était surtout masculin.
Ça a été très particulier. Et on n'était pas loin de 68 à cette époque. Et la libération des mœurs, c'est vrai que tout le monde la voulait, les garçons comme les filles. Mais maintenant, on commence à pouvoir parler de choses qui ne se sont jamais dites. C'est qu'après, il y a eu une pression sur les filles. Si elles n'étaient pas consentantes par rapport aux garçons, on disait, mais toi, t'es coincé, t'es frigide, t'es ceci, t'es cela. Donc, il y avait une pression à être toujours accueillante, satisfaire. Et ça a paru comme naturel. Et je pense que finalement, ça ne s'est pas dit. Et maintenant, on a mis tout. Voilà. Mais je pense qu'il a fallu des décennies pour que ça sorte. Le féminisme... on a d'abord voulu la libération parce qu'on était dans une société très oppressante. Enfin, c'est vrai, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, il y avait des principes, c'était rigide. Bon, vous imaginez sûrement pas dans quelle société on était. C'est vrai qu'on voulait en sortir, c'était normal. Mais je pense que ça s'est fait dans la démesure. Enfin, pour les filles, pour les garçons, ça a été sûrement très bien. Mais je pense que pour les filles, ça a été très bien, et en même temps, non. En même temps, il y a eu un manque de respect des femmes, je pense. Elles étaient des objets sexuels évidents, et ils n'avaient pas le droit d'ouvrir le bec par rapport à ça.
Particularité du monde militant de l'époque, je parle par rapport au mouvement antinucléaire, c'est que c'était essentiellement des jeunes. Alors qu'aujourd'hui, les militants du nucléaire, c'est tout des, je le disais l'autre jour, des vieux croulants comme moi, ou comme Joël, ou comme Alain, ou comme les membres de EZN. Et on désespère.
Non, ça c'est fatigant. Ouais.
On désespère c'est désespérant, de voir des jeunes. Et. Voilà. Mais je pense que là encore, il faut rattacher ça à 68. 68, c'était des jeunes. Et les premières années 70, c'est encore ces jeunes qui étaient sortis de 68 ou habitant en Provence, mais ayant eu écho de 68, qui se sont trouvés là, à Malville et ailleurs.
Ah oui, mais c'est net, quand on voit les photos, c'est des hippies.
Yeah, voilà. C'est des hippies, des cheveux longs.
Oui,
voilà.
c'était... Bon, on était dans une tête là, mais c'était chouette. Hein.
C'était pareil aux États-Unis. Hein. C'était... Le mouvement hippie, c'était des jeunes. Et après, il y a eu un grand creux. Bon, maintenant avec vous, ça va peut-être repartir, j'espère. Enfin, les jeunes qui se mobilisent pour l'environnement, de manière générale...
Nos enfants sont pas des militants, alors peut-être que Ils ont vu le côté peut-être du quotidien du militant. Georges a beaucoup milité, il est passé quasiment à mi-temps pendant des décennies.
Peut-être plus,
non, oui, donc par rapport à la famille, c'est pas neutre. Parce que quand on est investi à plus de mi-temps pour autre chose sans gagner d'argent, ben la famille, c'est pas la même vie. Il ne rentre pas autant d'argent, il n'y a pas autant de disponibilité en temps. Donc eux, ils ont vécu tout ça. Peut-être que ça ne leur donne pas envie d'être militants. Bon, les femmes qu'ils ont aussi ne sont pas du tout prêtes à accepter ça, je pense. C'est pas simple. Je rajouterais quelque chose de très important, et ça, ils ne nous l'ont pas dit tout de suite. Quand ils prenaient le ramassage scolaire pour aller au lycée, parce qu'ils allaient sur Belay, ben, ils se faisaient traiter de fils de l'écolo. Et ce n'était pas gentil. Hein. Franchement, c'était assez méprisant. Et on les a vus plusieurs fois arriver en pleurant. Enfin, on a été très, très marqués. Eux ont été encore peut-être plus marqués que nous, parce qu'ils étaient directement au contact des enfants, des chasseurs, des agriculteurs, qui devaient en entendre des vertes et des pas mûres sur nous dans leur maison. Mmh. Et ils étaient au premier rang pour ramasser. Donc je pense que ça les a aussi pas mal mis en retrait.
Oui, ça a dû jouer, sûrement.
Ah oui, ils nous l'ont dit après l'adolescence, on en aurait presque chialé, hein. C'était dur, très dur. Mmh. Mmh.
Sa place se tend pâle, y'a de la casse, son sein s'installe, il tabasse, on se cale, il nous nasse tous, râle, mais ça se passe, cavale, il nous chasse, dévoile, une farce bancale, pleine de crasse, cavale, et l'audace du scandale.
Ça influe sur le goût.
Avec du levain ?
Oui.
Ouais.
Et moi, j'ai créé un levain depuis
plusieurs mois, et là, j'ai un levain qui a l'acidité qui est très bien.
Mmh. Oh là, j'ai... Très tiens, vous pouvez manger, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien.
Ah là là, là trop bien.
C'est bon, voilà.
Comment ça, vous avez fait ?
Voilà. Surtout pas.
Mais la prochaine... On n'a jamais acheté un carton, quoi que ce soit.
La prochaine fois, si vous revenez, vous rentrez là et vous garez là. Hein.
Oui, oui, d'accord. Okay. Hein? Pas de problème.
Allez, bon retour et puis bon courage.
Enregistrement réalisé pendant l'été 2020. Merci à Daniel et à Georges pour leurs mots et leurs raisins au goût d'été. Merci aux copaines d'enregistrement et de montage. Et vive les micros libres.